birds when I saw it was a time for a change. Killed the Tsar and its ministers, Anastasia screamed in vain. I rode a tank, held a generous rank when the blitzkrieg raged and the bodies stank. Pleased to meet you, hope you guess my name. Oh yeah, I was puzzling you with the nature of my game. Oh yeah, I watched with glee while you kings and queens fought for 10 decades for the gods they made. I shouted out, who killed the Kennedys? Or I'll lay your soul to waste.
l'actualité avant tout, hein, l'actualité avant tout. Nous sommes toujours en direct de Groland.
Oui, toujours, ça n'arrête pas. Les invités arrivent à... J'ai la profusion là, donc c'est monstrueusement bien. C'est carrément bandant.
On accueille Gaël Mocard. Bonjour Gaël. Tu es réalisateur, c'est ça ?
Oui, je suis réalisateur,
Et donc tu présentes un film en compétition ?
Voilà, je présente un film qui s'appelle No Popcorn on the Floor.
D'accord, No Popcorn on the Floor. Tu peux nous faire un petit peu le pitch de, de ton film ? Tu
vois, c'est on est parti comme, pour le pitch, ouais, voilà.
Fais-nous le pitch !
Je crois que c'est à moi, ça va être à moi la mode, hein,
hein, le pitch. Vas-y.
Le pitch, en fait, c'est, la, c'est un documentaire qui raconte la vie d'un petit cinéma de quartier à Bayonne qui s'appelle La Talente. D'accord. Et voilà, donc j'ai filmé pendant un an et demi les quatre postes clés de ce cinéma.
D'accord, donc c'est un, on peut dire que c'est un documentaire.
C'est un documentaire, long métrage documentaire, voilà. Il y a deux scènes dans le film qui sont mises, on va dire mises en scène, qui sont écrites. Mais tout le reste, en fait, j'ai tourné, voilà, j'ai une façon assez empirique de travailler. J'ai 480 heures d'image sur un an et demi de tournage. Et en fait, je laisse tourner la caméra. Et le soir, en dérochant, je vois si c'est quelque chose ou pas.
D'accord, alors, ah oui, donc effectivement, ça doit faire énorme avec les...
Voilà.
Alors, chose extraordinaire, parce que moi, j'ai vu la bande-annonce, comme je te disais tout à l'heure, et c'est vrai qu'on a cette, ce sentiment à la fois que c'est un documentaire et en même temps un film. Et on est perturbé par rapport à ça, car on se sent... à un moment donné, on sent que... Bah, Il y a beaucoup d'humour en plus, c'est drôle, et les moments très durs. Et très dur, c'est vrai que le documentaire arrive bien à ce moment-là, on a vraiment le sentiment que c'est le documentaire, parce que là, on voit toute la difficulté de la petite salle, genre la programmation, comment on choisit les films, et aussi bah, pour comment on fait pour s'en sortir avec un nombre de personnel qui existe, est-ce qu'il faut licencier, il faut pas... Donc, je sais pas, c'est...
Sur l'idée en fait de la frontière qui est assez floue, enfin, ou assez fine entre le documentaire et la fiction... j'ai tourné là parce que je connais très bien les personnages, je connais le cinéma depuis une quinzaine d'années, et les quatre personnages que j'ai filmés, donc qui sont la caissière, la tavernière, le projectionniste et le directeur de la salle, sont des gens que je connais très bien, et c'est des personnages hors normes, c'est des vrais personnages, et ils sont presque devenus acteurs au fur et à mesure du tournage, parce que la caméra a complètement disparu. Ça donne donc cette impression en fait de docu-fiction, quoi. Mais, c'est un mot que j'aime pas du tout, mais bon, voilà.
Et la petite salle alors
Et la petite salle,
elle résiste.
Elle continue, voilà. En fait, bon, Ramuncho, donc le personnage principal du film, fait des choix de programmation très pointus parce qu'il peut se le permettre. Et il y a un public pour ça. Ils font plus de 100 000 entrées à l'année. C'est une petite salle de 180 places. C'est un cinéma de quartier. Hein. C'est dans le quartier de la gare à Bayonne. Et c'est un cinéma. C'est le plus vieux cinéma du Sud-Ouest. Voilà, qui date de 1913.
D'accord. Ramuncho et donc... Raymond n'ont rien à voir ensemble.
Ramuncho, c'est le...
C'est le Raymond local.
C'est le Raymond basque.
D'accord. Alors, je n'entends pas Raymond, mais...
Donc, à Perpignan, il y avait la gare de Dali. Donc maintenant, à Bayonne, il y a le cinéma.
Voilà, il y a la
Talente. Donc, c'est le cinéma, le plus beau cinéma du monde.
Oui, c'est, oui moi, c'est une salle que j'aime beaucoup parce que c'est avant d'être un cinéma, c'est un lieu de vie. Mmh. Voilà, c'est un lieu où le tissu social est important, c'est un lieu où les gens se retrouvent, et quand les gens viennent là, en fait, ils viennent pas juste consommer un film, ils payent pas leur place et ils se cassent pas juste après. Ils restent là, ils mangent avant, ils en discutent après, ils boivent des coups. Mmh. Donc voilà, c'est quelque chose de très convivial. Il y a une taverne. Malheureusement, il y a plein de cinémas où il n'y a plus de taverne, ça c'est assez inadmissible, mais bon, c'est comme ça.
Il y a des pop-corn.
Il n'y a pas de pop-corn, voilà. Par contre, ils font appel à un traiteur parce qu'ils n'ont pas le droit de faire resto.
Ouais.
Mais voilà, mais on peut manger voilà des petits trucs avant de voir le film.
Est-ce que tu merci.
C'est notre stagiaire.
Ouais, c'est notre stagiaire. Ce que tu racontes au fond, c'est un peu l'histoire d'une salle à essai aujourd'hui en France. Enfin, la difficulté de faire vivre et, un lieu en oui. fait où on va réussir à avoir une programmation de films qui nous plaît.
Oui.
Parce que c'est ça, l'histoire de ce
directeur, c'est ça. C'est lui, très compliqué, lui doit faire des choix.
Voilà. De faire des choix, d'obtenir des copies.
Voilà. Et ça, c'est le quotidien de plein de salles en France, qu'elles soient petites ou grandes, mais c'est le quotidien de tous les directeurs de cinéma qui font la programmation de leur cinéma.
Oui.
Lui, il a un choix à faire, en fait, dans ce film, c'est soit il continue à passer des films assez pointus, c'est-à-dire des films iraniens, tchèques... Et puis il voit qu'il fait 23 entrées et donc il ne peut pas payer les salaires, soit il élargit sa programmation. Mais voilà. Élargir sa programmation, pour lui, c'est impensable parce qu'il fait ce métier pour des raisons pour ces petits films-là. Justement, lui, ce qu'il veut, c'est faire découvrir ses films.
Oui.
Ce qui ne se fait pas dans plein d'autres cinémas.
Ce qui ne se fait plus du tout.
Ce qui ne se fait plus, il n'y a plus beaucoup de salles qui le font.
Il y a très peu de salles.
Il y a très peu de salles, oui.
Qui arrivent à maintenir
ce et je suis plutôt d'accord avec son point de vue. C'est-à-dire qu'on n'a personne envie dans 20 ans d'avoir les mêmes cinémas partout, avec les mêmes films, c'est-à-dire les trois plus gros films, aux mêmes horaires. Je veux dire, on voilà, puis on tue la diversité culturelle, on tue tout, quoi.
Oui, on tue la création aussi, hein, parce qu'elle ne se diffuse plus.
Exactement.
Gaël, est-ce que donc c'est ton premier film ?
C'est mon premier long métrage, ouais.
Ton premier long métrage. Et avant, tu faisais quoi ?
Et en fait, moi, ça fait 10 ans que je fais de la réalisation en télévision et j'ai fait plutôt des documentaires sociaux en Afrique, à Madagascar. Et en parallèle, en fait, j'ai travaillé pour une agence de presse qui s'appelle Kappa, où j'étais reporter de guerre. Donc j'ai couvert l'Irak, la Côte d'Ivoire et voilà, quelques conflits, quoi. Et j'ai eu besoin de me calmer et je trouvais que voilà, ce projet de long métrage où j'allais me poser en fait, pour filmer un combat différent, je trouvais ça intéressant. Et c'est plus difficile que de filmer un attentat ou que de filmer des choses comme ça en Irak, quoi. Parce que filmer l'invisible en fait, dans une salle de cinéma, c'est-à-dire filmer le moment où il n'y a pas de spectateurs, c'est très compliqué.
Ouais.
Je me rappelle quand on est arrivé nous en Irak en 2003, où il y a eu un attentat à la Croix-Rouge le lendemain matin. On est arrivé, on a posé des caméras tout de suite, on avait des images pour le journal du soir, on avait des images pour Arte Info le soir, etc. Il n'y avait pas de soucis. Par contre, là, c'est filmer le vide, filmer les non-spectateurs, ça, c'est compliqué, quoi. C'est un autre combat. Mmh. Voilà.
En dehors du festival, ton film, on pourra le voir où et quand
Et mon film, il est sorti en salle sur 10 copies le 29 avril.
D'accord.
Et,
okay, ben là, il est déjà sorti. Ouais.
Il est déjà sorti, voilà, il y a 5 mois. Mmh. Et il tourne, on va dire, très peu ou plus, quoi.
Mais tu as eu des très très bonnes critiques. Hein.
Oui, on
c'est
a eu.
Moi je regardais ça, c'est vrai que là c'est.
On a eu des jolis papiers, on a eu un bon accueil. Les gens n'étaient pas nombreux, on va dire, dans les salles, mais tous les gens qui étaient contents d'y être. Ils sortaient avec la banane, ils sortaient avec le sourire. Et puis voilà, et puis ils me disaient, on va en parler autour de nous, etc. J'aurais dit, mais oui, il faut faire marcher le bouche à oreille. Mais le problème, c'est qu'aujourd'hui, un petit film, quand il reste une semaine à l'affiche, c'est le luxe. Ouais, généralement, il reste 3 jours à l'affiche où il y a 2 présentations et ensuite il est jeté à la poubelle. Donc, comment faire fonctionner le bouche à oreille quand le film n'est plus à l'affiche, enfin, c'est hyper compliqué, quoi.
Ouais, ça, c'est très difficile. Ouais.
Et à Bayonne, voilà. Il a dû rester plus longtemps, une semaine.
Et à Bayonne, il est resté une semaine.
Ah, quand même.
Voilà. Oui. Bah, oui, mais il y avait Audrey Tautou, il y avait Coco Chanel, il y avait X-Men, il y avait des films importants à côté. Donc, bon.
D'accord. Ah bon? Des films importants.
Non, mais importants.
Non, parce que je le vois pas en important. On va pas dire en qualité, mais.
Je suis désolé. Si on les trouve pas dans la programmation de Quelqu'un Plage. Voilà. Donc, c'est pas si important que ça.
Ouais. Après, vous avez peut-être mal compris mon important, mais.
Et comment se fait-il. Et comment se fait-il que tu es dans la programmation et la sélection alors?
Ça, c'est une bonne question, j'en ai absolument aucune idée.
Parce que, en fin de compte, c'est un film extrêmement sérieux.
Mais il est bien projeté, ton film.
Non, il n'est pas sérieux, il est drôle.
T'es quelqu'un de sérieux ?
Il est
très drôle, oui.
Non, il y a des moments très drôles parce que. Voilà. Après, moi, j'ai je peux pas dire que je connais, mais j'ai croisé Gus, j'ai croisé le président quelques fois et voilà, en fait ils sont venus à Bayonne, moi je les ai rencontrés à Bayonne à l'Atalante quand ils avaient présenté Altra.
Oui.
Et puis leur film d'après, donc on a
Avida. Et en même temps, c'est aussi parler du cinéma, de qu'est-ce que le cinéma, comme on disait tout à l'heure, les petites salles de cinéma d'arrêt d'essai, je veux dire, c'est aussi une lutte en permanence maintenant, c'est par rapport à les grosses industries cinématographiques là. On comprend aussi le pourquoi que tu sois dans la programmation. Genre ça fait.
Mais pour moi, les cinémas RSC aujourd'hui, 95% des cinémas RSC, c'est de l'industrie, c'est de la grosse industrie.
Oui.
Parce que c'est soutenu par un réseau qui s'appelle l'Association française des cinémas RSC, qui donne un label, il y a des subventions, et voilà, c'est une machine qui est rodée. C'est des gens qui sont quand même capables de recommander Shrek ou de le classer à RSC, quoi.
D'accord.
Ce qui est quand même juste scandaleux, quoi.
Alors ça, tu as tout à fait raison, hein, mais c'est quelque chose qui est, alors là, pour le coup, entre guillemets, relativement récent, parce que ce virage-là des salles à RSC, il date d'une quinzaine d'années, je dirais.
Oui, voilà, oui, oui.
Il y a une quinzaine d'années, on a bien senti le virage
voilà.
Et la récupération du label à RSC par des salles commerciales qui n'allaient pas bien, en fait, hein,
voilà.
Et qui récupéraient ce label simplement pour toucher la subvention et continuer à passer des merdes qui passaient déjà habituellement.
Voilà. C'est-à-dire qu'en fait, les petites salles à RSC ou les salles de se sont fait prendre leurs films par des multiplex qui sont maintenant installés autour d'eux et voilà, mais ils n'ont rien en retour.
Ils n'ont rien en retour.
Et en retour, en fait, ils diffusent ou ils passent des films recommandés à RSC comme je sais pas, Harry Potter en VO est recommandé à RSC. C'est quand même un truc de fou, quoi. C'est pas possible. Il faut arrêter. Il y a des films qui ont plus besoin de salles et de spectateurs que Harry Potter.
Oui, ça c'est clair.
C'est quand même du foutage de gueule.
Et ton futur projet ? ou tes futurs projets ?
Mon futur projet, a priori, je vais partir en Ukraine filmer des mineurs dans une mine de charbon. Voilà, au mois de décembre. Il va faire bon, je pense.
Surtout à la mine.
C'est vrai qu'en France, il n'y en a plus donc.
C'est, non, mais c'est super dur quoi.
Bon
c'est,
courage.
Les conditions.
Super trash. Ouais.
Tu cherches une combinaison en Kevlar, c'est ça que tu m'as dit pour y aller.
Mais d'ailleurs, j'ai vu un espèce de chevalier là, du Moyen-Âge. Je lui ai demandé si on peut y taxer son costume pour le mois de décembre.
Et si éventuellement on voudrait passer ton documentaire quelque part dans un lieu improbable ou autre, comment fait-on ?
Comment on fait ? Bah
c'est une bonne question.
Une bonne question, mais non, il faut appeler le distributeur, le producteur, ou m'envoyer un mail à moi. Et puis,
d'accord.
Nous, dès qu'on peut. Moi, j'ai déjà fait à peu près 50 dates, enfin, ça fait 5 mois que je tourne avec le film pour le présenter, etc. Ouais. Et voilà, et il peut continuer à vivre, moi je peux me déplacer pour le présenter. Sans problème.
Et alors cette parce qu'on a du temps après tout. Zut. Cette idée. Comment c'est venu là cette idée de partir en Ukraine, de filmer le quotidien des mineurs.
L'Ukraine, c'est parce que je suis tombé sur le site d'un photographe franco-ukrainien sur Internet.
Hein, ouais.
Que j'ai contacté et qui fait des photos magnifiques et puis voilà, j'ai envie de raconter leur histoire quoi. Mais c'est très simple quoi, c'est voilà, mais j'ai plusieurs projets en fait, donc le monde du documentaire, bon c'est pas, on peut pas dire que ce soit la fête tous les jours, hein, je veux dire c'est pas voilà, c'est pas la fête tous les jours, donc en fait on cherche des sujets. Moi par exemple je vais y aller avec mes propres moyens, je vais essayer de tourner quelques images et puis ensuite je vais essayer de trouver un producteur voilà qui soit intéressé par un film, par le film. Mais il y a ça, puis j'ai un autre projet à Madagascar encore, j'ai déjà fait 5 films.
Ouais.
A priori filmer la vie le quotidien d'un commissariat qui s'appelle Commissariat Central à Antananarivo. Voilà,
c'est un beau sujet aussi.
Ouais, voilà, mais c'est assez facile, c'est assez compliqué à diffuser quoi. Un sujet sur un commissariat, la vie d'un commissariat à Madagascar, on s'en fout un peu quoi, aujourd'hui.
En ce moment, non, on connaît des gens, ça les intéresse.
Non, mais voilà. Mais après, c'est toujours pareil, c'est que c'est plus facile d'amener des gens sur des sujets, sur des fictions.
Une grosse communauté malgache implantée dans le Nord-Pas-de-Calais, notamment aux alentours de Lille. Oui, tout à fait. Il y a d'ailleurs sur Radio Campus, une tous les vendredis, de midi à 13h, une émission concernant la culture malgache. On fait un petit signe à Drouot.
À Drouot, exactement.
Qui fait cette émission avec Nari, son collègue, puisque avant notre émission.
Sa collègue intellectuelle.
Sa collègue Nari. C'est gentil. Si Drouot, tu nous écoutes.
C'est pas nous, hein.
Voilà, donc il n'y a pas de souci, Gaël.
Après nos popcorns, c'est vrai que le sujet a l'air sérieux comme ça, mais c'est drôle.
Oui, mais j'en doute pas. Oui. On essaiera d'aller le voir.
Non, mais j'ai peur. Je vous vois faire des têtes d'enterrement là. Ça me fait peur.
Pas du tout.
Non. On essaie d'être sérieux.
Pas du tout. C'est la chaleur.
On essaie d'être sérieux et de faire France Inter. Attends.
Et en même temps, il y a une chose aussi parce qu'on parle. On parle rarement du visu de l'affiche. Une très très belle affiche. Aussi,
on fait sérieux, mais on déconne d'habitude. Tu nous connais pas,
non, c'est vrai.
On a des masques de catcheurs là et tout. Si
oui, mais j'ai vu ça, ouais.
On peut,
j'ai vu ça, oui.
Mais parce que là, on est dans un créneau horaire, tu sais, où
c'est un peu
sur Radio Campus.
Et on a aussi des dégâts.
Voilà, très bien.
On est sur un créneau horaire où il y a une émission de cinéma qui est sur Radio Campus, et donc c'est très sérieux. Et donc, on fait comme eux, tu vois.
Mais c'est très bien le mégaphone parce qu'il y en a un dans le film.
Ah, voilà.
Il faut aller voir le film pour ça.
Ouais.
Oui. Gaël, on te remercie de ton intervention.
Bon courage,
tu repasses quand tu veux.
Si
tu veux, on est là jusque demain, 15h, environ 16h. Si tu veux.
Bien, ouais.
Si tu penses que tu vas avoir le prix, tu peux venir nous le dire. Hein, même si tu as le prix. Hein.
Ouais,
voilà.
Super.
Merci.
Okay, merci de m'avoir accueilli.
Est-ce qu'avant de partir, tu peux nous faire une petite dédicace sur les affiches qu'on a mis à disposition
bien sûr,
puisqu'on
bien
fait dédicacer tous les intervenants à la radio sur ces affiches.
Avec plaisir.
Et bah, écoute, tu mets ton mail aussi parce que moi, ça m'intéresse.
Oui, ça nous intéresse. On a...
Tu mets ton mail, on a la possibilité de te faire passer ton documentaire, ton film, sur l'île. Donc, tu mets ton petit mail en signant à côté.
Je vais mettre tout ça, pas de soucis.
Et je te remercie encore.
C'est moi qui vous remercie.
Bonne chance pour le festival.
Ouais, merci.
Alors, un gros merde.
Quelques petites annonces là en direct sur Radio Campus en 6,6 et sur campuslille.com. Et ben au niveau de l'actualité grolandaise à Quimplage, à savoir qu'à la librairie grolandaise située à Quim, on a entre 16h et 16h30 les dédicaces de Jackie Berroyer
qui devrait normalement juste après arriver ici dans les studios.
Qui devrait arriver après ses dédicaces. Jackie Berroyer qui est bienvenu dans les studios. Ensuite, juste à l'antenne, après on va prendre Shfakir la roule autruche. C'est bien la roule autruche. Hein,
les amis de la ruche,
vous êtes prêts?
Alors, On peut continuer à dire que, par exemple, à la librairie hollandaise, de 17h à 17h30, il y a des dédicaces de Guzet et Benoît. Hein, et à 17h30 jusqu'à 18h, J.O., le dessinateur de Ciné Hebdo, continuera à faire dédicaces. Et une petite information de déprogrammation, une petite info de déprogrammation pour le public grolandais qui se trouve dans les rues et sur la plage. Bilin,
il est pas mort.
Est un film qui était programmé, passe à la Géode à 21h30. Bilin passe à la Géode à 21h30. Petit changement dans la programmation du festival. Bilin passe à 21h30 à la Géode.
Et il faut rappeler qu'il reste quelques œuvres. Il reste quelques œuvres, peu.
Est-ce
hein,
que
mais
quelqu'un
il en
a un
reste
stylo
encore, hein,
très peu d'œuvres, mais de Rémi.
Rémi qui sont à vendre.
Voilà.
Pour des sommes
modiques.
Modiques.
Ouais, d'ailleurs,
au regard de la qualité de cette production.
Donc, on va continuer. Voilà, nous sommes toujours en direct de Groland.
On passe un petit peu de musique en attendant que les autres s'installent.
Exactement, parce que je pense qu'on va avoir une fanfare carrément qui va jouer
dans
le studio.
Problème.
Donc, on les laisse s'installer.
La fanfare.
On les laisse s'installer.
La fanfare, on entend rien. C'est quoi ce
moment? Normalement, ils sont prêts.
Alors,
vous êtes qui là, la fanfare d'abord?
3, 4,
7. Les amis de la ruche.
Marcel Cognetier.
Alors il faut dire bonjour, comment t'appelles-tu?
François Ruffin.
François Ruffin est avec nous. Bonjour, enchanté.
Un grand personnage.
Il fait pas, hein, moi je le pensais plus vieux.
Ouais.
Jeune François. On arrête. François,
demain.
Tu travailles avec Damien Mermet, tu as créé Chfakir, un magazine qui est maintenant distribué au niveau national. C'est bien ça,
ouais, hein,
sur le pitch.
Qui travaille aussi de temps en temps aussi,
au monde diplomatique.
Au monde diplomatique.
Tu fais autre chose?
Bah, j'écris les bouquins, ça m'arrive.
J'écris les bouquins par bien en face.
J'écris les bouquins et je vends le canard à la criée. Non mais là, bon, on est avec.
Vas-y,
les amis
explique.
On
est bien au micro.
On est avec les amis de la ruche là, donc c'est une bande de copains qui portent tous le t-shirt Fakir et on jouait donc dans la rue centrale de Quin et on s'est fait dégager par la gendarmerie parce qu'apparemment, bon, les gendarmes ont été sympas. Hein, et ils nous ont dit bon bah voyez, nous on a l'air de cons, ça fait une demi-heure que vous jouez, il y a un arrêté préfectoral. Ah bon, c'est le préfet qui a voulu ça? Non, c'est le maire. Donc je sais pas, il y a une embrouille entre le maire et le préfet. Enfin, toujours est-il qu'on n'a pas le droit de jouer de musique dans un festival dans la rue, c'est quand même un peu triste. Et donc au bout d'une demi-heure, les camarades se sont fait rembarrer par les bleus, quoi. Voilà, pas méchamment, mais
bon. Alors, on sent bien qu'il y a une pression des autorités très forte.
Pourtant ils étaient orange.
Je confirme, ce n'est pas le maire. Ouais. C'est le préfet. Il y a effectivement un arrêté préfectoral. Je suis allé vérifier auprès du maire.
Ouais, mais les gendarmes disent que c'est le maire qui a été demandé.
Oui, parce que leur interlocuteur c'est le maire, mais c'est le préfet effectivement.
Pourtant, je suis désolé, mais bon, avec des t-shirts orange, on pourrait se dire c'est le MoDem et tout ça. Donc
c'est vrai.
Ça passe partout.
Le MoDem maintenant c'est une opposition radicale.
C'est vrai.
Ah ouais, c'est carrément radical ici. Hein.
C'est oui, extrémiste.
Bon, en tout cas, on peut les écouter quand même.
Oui, on va les écouter avant.
Et après, on reprend François.
Après, on reprend François et il garde l'antenne.
D'ailleurs, tu peux proposer des t-shirts au staff de Radio Campus. Hein.
Ouais, on peut faire des échanges de t-shirts.
Pour moi, c'est taillé.
Eh bien, quand vous voulez.
Allez, c'est parti.
On va voir ce que ça donne.
En direct sur Radio Campus. We'll be right back.
en direct de...
Ouais.
En direct du festival de Quimplage, du festival de Groland, c'est la fanfare Les Amis de la Ruche. C'est ça.
Oui.
En collaboration avec Shfakir, journal fort intéressant. Et il y a François qui est avec nous, François Ruffin qui nous.
Pour avoir autant de talent que ça, il y a une solution, c'est de porter un t-shirt Fakir.
Ah, il faut le répéter quand même, vu. Grâce à Radio Campus, ces musiciens qui ont été interdits de jouer dans la rue, sont quand même diffusés dans la rue, puisqu'on est diffusé dans la rue.
C'est
à Quin et pas à rue. Mais bon, pour ceux qui connaissent un peu le secteur géographique.
C'est le préfet qui a interdit.
C'est nouveau, c'est pas nouveau qu'on commence à avoir des glissements progressifs comme ça vers les libertés individuelles qui disparaissent. À propos, François, puisqu'on t'a sous la main, il y a une actualité très chaude en ce moment, c'est la cellule 34. Les fidèles auditeurs de Daniel Mermet ont pu entendre un reportage que tu avais commis, j'imagine, concernant cette, je ne sais pas comment on peut qualifier, c'est même pas un événement, enfin ça fait partie encore une fois de ce rouleau compresseur qui avance tranquillement avec la répression, parce qu'on est là, on peut utiliser le mot répression. Après les jeunes de Tarnac, c'est maintenant les papis de l'Hérault. En gros, je résume, mais tu me corriges si je dis des conneries. Il y a eu un corbeau qui pendant et continue d'ailleurs à envoyer des lettres de menaces à des personnalités diverses jusqu'aux plus hautes autorités de l'État, à savoir le président de la République. Ça dure des mois. Et puis les Pandores, on va dire, les plus hautes autorités de sécurité de notre pays, ont décidé d'agir ou de réagir. Ah, et puis effectivement, comme toujours dans ces cas-là, la réaction a été bien au-delà de ce qu'on imagine. Est-ce que tu peux dire un petit peu l'état des lieux aujourd'hui ?
Ce qui s'est passé, c'est que... Oui, donc effectivement, la DNAT, la Direction Nationale de l'Antiterrorisme, a débarqué donc à Saint-Pons-de-Thomières, qui est un petit bled, un peu l'équivalent de Quimplage, on pourrait dire. Et là-bas, ils ont arrêté donc effectivement des militants de gauche, d'associations notamment écologistes.
Et des militants du Parti communiste. Ouvertement militants, quoi. C'est pas des anonymes, c'est pas des...
La cellule du Parti communiste. Et aussi, ils ont arrêté le boucher, ils ont arrêté le dentiste, ils ont arrêté le notaire. Voilà.
C'est un cantonnier.
Là, ça n'a pas marché pour l'antiterrorisme parce qu'ils ne se sont pas attaqués qu'à des genoux. Ils ont touché l'ensemble de la population. Et de ce coup-là, il y a eu des manifestations dans la population, y compris du prêtre, des catholiques et puis tout ça, qui ont dit non.
L'unanimité.
Ça nous rappelle, ils le disent, il y avait des vieux qui ont connu 40 qui sont descendus dans la rue en disant non, on a vu des gens arrêtés comme ça sans raison pendant la guerre et il n'est pas question que ça recommence. Quoi. Donc là, il y a eu une pression de la population qui ont fait qu'au bout de 60 heures, donc c'est-à-dire quand même 2 jours et demi de garde à vue, les gens ont été relâchés. Puisque de toute façon il n'y avait aucune preuve contre eux. Quoi.
Et sans suite judiciaire, il n'y a pas de, comment on appelle ça, de contrôle judiciaire.
Pour l'instant, il n'y a rien. Non, il n'y a rien du tout.
Il n'y a
aucune matière de preuve. Mais je dirais que je ne sais pas si vous connaissez cette histoire qui se passe au Cap Nègre où on a une grande hésitation à savoir s'il faut choisir entre le fausse sceptique ou le tout à l'égout dans la demeure de la belle-mère de Nicolas Sarkozy. Bon, là, qu'est-ce qui s'est passé au Cap Nègre ? Il s'est passé que Nicolas Sarkozy a mis la pression à l'association pour être en faveur, je crois, du tout à l'égout aux dépens des fausses sceptiques. Il y a eu une certaine opposition au sein de l'association au tout à l'égout en faveur des fausses sceptiques. Ça a l'air très rigolo comme ça. Le préfet a débarqué pour dire qu'il fallait le tout à l'égout et non pas les fausses sceptiques. Et puis le préfet étant pas suffisamment actif, manifestement, il a été déplacé. Alors, est-ce que c'est seulement pour une histoire de tout à l'égout et de fausses sceptiques ? Mais on est dans la même logique. C'est-à-dire qu'on a un sommet de l'État qui, d'un seul coup, se réveille et dit « Bon, il faut agir, soit en faveur du tout à l'égout, soit pour arrêter le corbeau tout azimut. » Donc là, les services de l'État en matière pour le corbeau, ils se sont réveillés à la fin août en disant « Bon, qu'est-ce que c'est que cette histoire ?» Ils ont demandé à l'antiterrorisme d'arrêter du monde et puis ils ont embarqué en fait les opposants au maire socialiste de Saint-Pons-Saint-Omer. Ils ont essayé d'embarquer tout le monde. Quoi.
Pour justifier leur existence, pour faire voir qu'il se passait quelque chose, que l'État réagissait.
Non, il y avait une exigence, mais même les policiers, ils sont pas très à l'aise vis-à-vis de ça.
Oui. Ils doivent connaître la réalité.
Voilà, ils se retrouvent face à des mecs, face au boucher. Moi, j'ai interrogé le boucher de Saint-Pons-de-Thomières qui a été classé comme un dissident parce qu'il a critiqué à un moment donné la fête de la châtaigne et du cochon. Et donc, ayant critiqué la fête de la châtaigne et du cochon, Quelques années plus tard, il est classé comme opposant et la Direction nationale de l'antiterrorisme débarque chez lui, l'accuse parce que sous un calendrier, il a une chanson de l'International. Et donc, à partir de ce moment-là, ils disent « Mais comment ça se fait que vous avez l'International chez vous ? Vous avez l'air d'être un type honnête et vous en avez l'International chez vous. » Il dit « Attendez, c'est ma femme, elle est originaire d'une famille communiste. Sa grand-mère, elle avait la maladie d'Alzheimer. La seule chose dont elle se souvenait, c'était l'International. Pour la réveiller de temps en temps, il fallait lui chanter l'International. Donc, on lui chantait l'International ensemble, au repas et puis tout ça. Il n'y a pas de crime à essayer de guérir grand-mère de la maladie d'Alzheimer. » Mais les gendarmes sont allés lui dire que non, ils ne devaient pas fréquenter le Café La Cigale, parce que le Café La Cigale était un repère de communistes. Donc bon, voilà, c'était l'ambiance dans la ville.
On rigole, alors, mais c'est super triste, mais c'est super angoissant.
En même temps, il y a quand même une certaine résistance de la population. Le boucher, quand on lui dit de ne pas aller à La Cigale, il rigole devant les flics, et il dit ouais, c'est ça, et le lendemain matin, c'est le premier à être là pour aller acheter son tabac et dire bonjour aux communistes en face, même si lui, il n'est pas. Tu vois, donc il y a une résistance face à ça
dans ton reportage, il y a aussi un personnage de classe internationale, c'est le légionnaire qui a complètement changé de bord et qui est maintenant militaire. Je ne sais pas comment il
s'appelle. Lui n'estime pas avoir changé de bord. Pierre Blondeau, ouais. Il dit « Je suis gaulliste depuis toujours. Être gaulliste, ouais. C'est en 1940 résister. Et aujourd'hui, résister, c'est résister au libéralisme. Donc, je suis devenu radical au Parti communiste. » Donc, ouais. Lui n'estime pas avoir changé de bord. Et il était dans l'armée en considérant que l'armée était un système collectiviste. Donc, oui. voilà, moi, je suis reporter.
Mais c'est beau.
Oui, voilà, mais moi, je suis reporter. Donc, si tu veux, moi, je suis pour aller voir la France dans sa diversité. Ah ouais. Après, j'en fais mon miel, je recueille des trucs, mais bon, d'abord, j'entends cette parole, elle me fait marrer, mais peut-être qu'il y a une part de vérité. Moi, j'ai pas fait para. C'est pas légionnaire, c'est parachutiste.
C'est mieux encore.
J'ai pas fait les paras, tu vois, donc je sais pas, mais c'est vrai qu'en plus, j'ai des copains qui sont.
C'est une bande de copains.
Bah, il y en a qui le vivent comme ça, quoi.
Bataille de Polochon.
C'est Pierre Blondeau, alors, lui.
C'est pas faux dans l'univers. Militaire, c'est pas faux du tout.
Et on a des suites de cette affaire-là où ça va partir en bulle de savon.
Moi, je pense que c'est fini.
Un truc de Charlot, quoi, de rigolo.
C'est... Moi, il y a eu un article, je veux pas trop m'avancer à la radio, mais il y a eu un article qui est paru dans La Semaine de l'Hérault, qui est un hebdo là-bas, mais c'est un hebdo qui bouge un petit peu, mais c'est pas un truc de gauche, mais c'est un hebdo qui bouge un petit peu, et qui a mis, la semaine d'après la réception des premières lettres par Raymond Couder, le député maire de Béziers, a mis en une ceux qui considéraient être le corbeau, c'est-à-dire deux militants de l'UMP. Et ils ont dit, voilà, c'est eux qui ont en vérité envoyé la lettre à Raymond Couder. Moi, ce qui me surprend, c'est qu'on est quelques mois après ça, et d'une part, ces deux personnes n'ont pas porté plainte, alors que moi, si on m'accuse d'avoir envoyé une lettre une balle...
Dans une plainte de presse,
ouais. Je porte plainte. Donc d'une part, ils n'ont pas porté plainte pour diffamation, c'est le premier point. Et deuxièmement, la DNAT, la Direction nationale de l'antiterrorisme, n'est jamais allée questionner ces personnes qui se sont retrouvées en une du journal local et même à plusieurs reprises. Donc ça veut dire qu'en gros, on va chercher le corbeau peut-être partout, sauf là où il a une chance de se trouver.
Ouais. Dans sa niche.
Dans son nid.
Tu vas continuer à investiguer là-dessus, non ?
Je pense pas que le cœur de l'affaire d'État soit là-dedans, quoi. Ouais. Tu vois.
Non, mais il y a quand même l'enjeu, effectivement, du montage médiatique, de l'intox qui régulièrement nous est resservi. Les médias du jour au lendemain, paf, nous resservent. Bon, on va reprendre les gros sujets actuellement avec la grippe, par exemple. Il y a quand même un problème de non pas de liberté d'expression, mais d'utilisation des moyens médiatiques et des moyen d'expression.
Ouais. Mais bon, je pense qu'il y a quand même des enjeux. C'est ce qu'on a mis au cœur du journal Fakir de cette fois-ci. Mais il y a quand même des enjeux qui sont plus importants en ce moment. C'est la crise sociale. Tout ça parce que la cellule 34, c'est un machin mis en avant par Sarkozy à la fin de l'été pour essayer de faire mousser ce machin-là. Donc effectivement, si on en fait des tonnes nous-mêmes avec la cellule 34, on est pris dans le piège médiatique, quoi.
Là, t'es mal entouré, là.
C'est deux personnes avec des lunettes noires. C'est vrai qu'ils ne disent rien.
On connaît bien François, il est totalement parano.
C'est les cos-killers. On va se partager le micro avec le cos-killer qui est à ma gauche.
On connaît bien François, il est totalement parano, il invente des tas de trucs. On pourrait vous dire des trucs sur le 11 septembre, on pourrait écouter pendant des heures, mais...
Même il paraît qu'il y a un festival à Caen.
Il annonce des choses.
Il y a carrément un festival d'un pays qui n'existe pas, mais n'importe quoi.
Bienvenue déjà.
À la fois, moi, je l'envie parce que j'avais envie d'aller à la Cigale. Là, c'était mon rêve, c'était d'aller boire un coup à la Cigale. Ouais. Donc,
vous pouvez y aller. Hein, la Cigale est ouverte du lundi au samedi à Saint-Pons-en-Thomière.
Il y a un happy hour.
52 rue de Castres, je crois.
Très bien, bravo.
De nouveaux invités, Alain, qui sont...
Qu'est-ce qu'on peut dire sur ces invités-là?
Qu'est-ce qu'on peut encore dire? On se pose la question.
Là, depuis tout à l'heure, ils se baladent dans les rues.
Le plus grand
je sors d'avoir vu une projection
extraordinaire.
Alors attention à ce que tu vas dire, parce qu'il y a déjà eu beaucoup de délations sur un certain nombre de films ici.
Là, c'est le C35.
De gens qui vendent toujours le même film, et ça commence à...
Non, mais moi, c'est le seul que j'ai vu, donc je ne sais pas... Non, il s'appelle Panique au village.
Ah non,
j'y peux rien. Je sais pas pourquoi c'est déjà celui-là qui est cité tout le temps.
Il a été cité assez régulièrement en Belgique, c'est-à-dire que nous on est frontaliers, tu sais bien. Forcément on a une proximité culturelle, géographique,
les infos sont meilleures
avec nos amis belges. Bon, en même temps on aime beaucoup ce qu'ils font, évidemment.
Mais il y a d'autres films.
Merci.
Mais, je sais pas, j'ai envie de voir La Terre de la Folie de Luc Moulet. Mais malheureusement je ne pourrais pas voir tous les films.
Et pour ceux qui n'ont pas l'image, on ne sait toujours pas qui sont nos invités.
Non mais on s'en fout.
Vient d'arriver.
Si, c'est important.
Parce que, comme vous voulez, c'est vous qui décidez.
On a le plus grand reporter du monde.
Ah oui,
1m88.
1m88,
voilà,
exactement.
Voilà, 1m88.
Oh, bonjour, Michael Cull, comment tu t'appelles?
Benoît Cull ou Michael de l'Épine, comme vous voulez.
Bon, alors vous êtes les protagonistes, je veux dire, aussi du festival. Donc depuis 5 ans. Donc depuis 5 ans, vous êtes heureux ou... C'est un vrai bordel comme vous l'aimez ou c'est
grâce à nous vous buvez gratuitement?
Oui. Non, mais c'est pour ça qu'on suce là. Attends, c'est pas fou, même si on est libre. Fais attention.
Ouais, on a quand même deux protagonistes du festival, mais aussi deux cinéastes, on peut dire maintenant.
Ouais, on a même deux amphorés, deux gros amphorés.
Deux amphorés.
L'année dernière,
on était à la fois organisateur du festival et gagnant du festival. Donc ça, c'est assez rare dans l'histoire des festivals pour être signalé.
Et on n'a pas passé un délit d'initié.
Ce qui n'a pas été possible cette année pour une question de temporalité.
Gilles Jacob n'a jamais eu la palme d'or.
C'est-à-dire que nous, on joue la transparence. Ça arrive dans tous les festivals, mais nous, on joue la transparence. On a eu le Grand Prix. C'est nous qui l'organisons, mais sinon, dans tous les festivals, c'est pareil.
Oui, parce que tu viens de terminer un film.
Nous venons de
terminer. Ah oui, pardon, vous venez de terminer un film.
Non, mais j'ai l'habitude.
Mais Gus, vous
êtes... Et donc, il n'a pas pu être présenté à Quin, puisque vraiment, le tournage s'est terminé juste avant le festival.
Voilà. Il sera peut-être là l'année prochaine, mais à part ça, c'est vraiment... Enfin, pour parler un peu sérieusement, mais ça fait maintenant une dizaine d'années qu'on se bat pour les films un peu indépendants, qui sont mal diffusés en France. On avait commencé par une expérience à Paris dans un cinéma qui s'appelait Ciné Alternative, où on diffusait ces films-là, mais une fois par mois. Et quand, grâce à Raymond Desfossé, on a eu la possibilité de faire ce festival du film Grolandais à Quin, c'était justement pour réunir tous ces films qui sont un peu paria ou mal distribués, ou qui n'ont pas vraiment leur chance, alors qu'ils ont souvent vraiment une force, un engagement, ou une drôlerie, une bizarreté qui leur permet d'exister, quoi. Et là, on est vraiment content.
Donc, voilà.
Ça m'apprendra à parler sérieusement.
Dès qu'on parle sérieusement, c'est le bordel.
Non, mais franchement, la sélection de cette année est vraiment superbe. Et par exemple, l'année prochaine, on sait déjà qu'il y aura des films. Enfin, on a plein de potes qui ont réussi à faire leurs films pour pas beaucoup d'argent, et qui seront là l'année prochaine, parce qu'on sait qu'ils sont en tournage. Ou enfin, quelqu'un comme Joël Seria, qui était venu il y a quelques années, grâce au Festival de Quin, il a trouvé un producteur et il a enfin fait un film, alors que ça faisait 20 ans ou 30 ans qu'il n'en avait pas fait un. Il en a tourné un cet été. Francis Kuntz, avec ses pauvres, avec un peu d'argent, une caméra vidéo et des potes, il est en train de tourner du côté de Nancy. Rabaté, qui est présenté Cavalier Facile il y a 2 ans, qui était vraiment un film tourné avec rien du tout, avec des potes, ça lui a permis de faire lui aussi un long métrage cet été. Donc en fait, il y a quand même vraiment une vague de films indépendants comme ça, qui sont vraiment dans les tout petits budgets du cinéma français, mais qui existent et qui en plus sont souvent drôles, quoi. Donc si ça n'est que pour ça, au moins on aura servi à ça, plus effectivement tout ce qui se passe dans le Festival Off, où vraiment les gens peuvent débouler avec leurs films, et ces gens-là, ça leur permet de montrer leur production et de faire des rencontres aussi, quoi, ouais. Et d'imaginer eux aussi de faire des films avec pas grand-chose, qui peuvent être diffusés sur Internet, voire en salle.
Oui, parce que nous, on n'a pas le temps d'aller voir les films, mais par contre, on est allé sur La Croisette, et là, hier, à Quin, évidemment, La Croisette de Quin, hein, et là, il y a de la vidéo, c'est essentiellement de la vidéo qui est produite, mais il y a des choses qui sont
extraordinaire.
Hein, bon, c'est du belge, hein, nous, on a eu un coup de cœur pour du belge, mais bon...
Il y a une salle de cinéma en carton. Fabriqué sur place. Il faut aller voir. Non, c'est extraordinaire.
Ils ont fait une salle de cinoche en carton.
En carton, bien, non, c'est excellent. Ouais.
C'est vraiment bien.
Mais vraiment, on a un peu peur de la concurrence des jeunes, alors on ne va pas y aller.
Ah ouais.
Ouais, mais dis pas ça aussi, parce que ça leur fait mal. Ils nous écoutent là.
Il y a le cinéma, mais aussi il y a l'espace de résistance que vous avez mis
bien
en
sûr,
place.
Bien
et
sûr. Je rigole.
Et c'est vrai que ça aussi, c'est. Alors c'est une nouveauté.
C'est depuis l'année dernière, mais je sais pas. Je trouve ça intéressant. Bah, on a d'une certaine façon accompagné la naissance de Ciné Hebdo. Cette année, il y a Fakir. J'ai rencontré des gens qui vont sortir un nouveau canard là hier, qui s'appelle Kamikaze. Enfin, je sais pas ce que ça va donner, mais je sais pas, on sent que ça bouge aussi à ce niveau-là, quoi, que des projets peuvent se faire sans dépendre de budgets énormes, quoi.
C'est pour ça que moi je voudrais encore rendre hommage à François Ruffin qui est à côté de moi, parce que quand on voit l'état du journalisme en France en 2009, on se dit que c'est quand même incroyable qu'il n'y ait que une poignée de personnes qui fassent des reportages comme fait François. Ça devrait être c'est le béaba du journalisme, et il se trouve que moi je trouve ça lamentable. On peut le répéter des dizaines et des dizaines de fois, mais le journalisme en France est une catastrophe, quoi. Des gens arrivent à faire des reportages comme ça qui sont des reportages normaux quelque part. C'est d'aller voir La Cigale et tout ça, c'est carrément le béaba du journalisme. Et je trouve que personne ne le fait. Donc c'est quand même à rappeler et à saluer François qui est là pour lui dire merci de continuer à faire ça, parce que c'est pas si évident. Et donc voilà, donc je voulais vraiment le saluer parce que c'est un vrai travail, quoi.
Et donc là, je sens que j'ai la possibilité de faire remplir immédiatement un butin abonnement pour un abonnement héritable à Gustave Carverne.
Merci. Ah, ça, tu peux y aller, c'est sûr.
Et Gus, on se souvient, enfin peut-être pas tout le monde, mais on se souvient tes reportages que tu faisais dans le plein de super.
Oui, un petit moment.
Que de chemin parcouru.
Eh oui, avec le Bollock. Le Bollock et Solo, c'était ma première expérience. C'est là où Benoît. M'a vu, et c'est comme ça que j'ai commencé Groland après. C'était une belle période. C'était la période.
T'étais l'envoyé spécial en Bretagne, je me souviens.
C'est-à-dire, j'allais faire tous les festivals de France. Il se trouve qu'en Bretagne, il y avait la majorité des festivals. Donc je me retrouvais souvent en Bretagne, mais à l'époque, on était vraiment. C'était le début de Canal Plus où on partait à 4 pour faire des reportages. Il y avait 2 drogués, 2 alcooliques. Je vous donne le soin de retrouver
c'est une image que
Et on s'amusait vraiment, et on faisait vraiment les cons, et c'était vraiment le. Quand on revoit les reportages que je faisais, parce que je faisais les reportages ivre-mort quand même, donc je sais pas, je trouve plus ça maintenant, un mec bourré à l'antenne. C'est comme les journalistes d'investigation, c'est pareil. Il y a plus cette liberté qu'on avait de faire des conneries. On est maintenant, on est stressé par le moindre truc qu'on fait. La liberté a disparu, et ça c'est dommage.
Mais à l'époque, j'ai eu la surprise de voir, tu l'as vu dans le grand journal, Mouloud, maintenant il a perdu 30 kilos, il porte une cravate et il a
Mouloud, ouais.
Non mais je sais pas, il y a un problème, quoi. Alors que il était dans l'excès, il y avait quelque chose d'excessif, il va quand même se fondre dans la norme. C'est bizarre.
Parce qu'on parlait de la presse, des médias, mais je sais que j'ai un souvenir, Benoît, où tu as participé à un colloque avec Michel Collomb il y a pas mal de temps à Paris. Et j'étais très surpris de voir Moustique et toi-même parler des médias. En plus, il y avait un film qui sortait ou qui était sorti.
Michel Collomb, il avait écrit un bouquin extraordinaire qui s'appelle Attention Média. Oui, c'est médias. Son premier. Vraiment, je m'étais vraiment basé sur ce qu'il avait écrit pour écrire un film. J'avais vachement de respect pour tout ce qu'il faisait, parce que il partait vraiment sur le terrain, ce qui était inouï, quoi. Je sais pas si vous êtes au courant de son affaire, mais même pendant la Yougoslavie, il a tellement bien enquêté sur
il a quelques séquelles encore
avec l'uranium qu'il a chopé un cancer. Donc c'était c'est vraiment des gens. Et puis il a, lui il est bizarrement grillé partout. Enfin, je veux dire, quand moi j'essaie de le faire rentrer à Canal ou des choses comme ça, et à chaque fois c'est oh là là, enfin, ça sentait le soufre. Mais ouais, simplement parce qu'il ne défendait pas les causes
classiques,
les,
qu'on causes devrait
classiques. Défendre, voilà. Enfin, les causes officielles finalement. Ouais. C'est un peu une espèce de nouvelle Pravda, c'est la Pravda du libéralisme, ouais, en fait.
C'est si le monde à l'envers.
Le malheur de s'écarter de la thèse officielle, ouais, on est mis de côté très rapidement.
Et donc pour vous, vous qui êtes à Canal+, vous travaillez à Canal+, plus ou moins, genre vous êtes quand même, vous pouvez vous lâcher. Est-ce qu'il y a à un moment donné de la censure ou pas du tout pour vous?
Non, on ne peut pas dire qu'il y ait de censure, vraiment. Enfin, ils ont fait la gueule un moment, là, il y a 2 ans, parce qu'on avait fait en pleine campagne électorale sur Sarkozy, on l'avait fait en un jardin, on avait balancé de la merde dessus, là, ils étaient moyen contents.
C'est du harakiri.
Mais non, on ne peut pas dire ça. Mais non, parce que bizarrement, le métier d'humoriste, il est à la limite mieux protégé que celui de journaliste, quoi. Mmh. Enfin, il y a, ouais, le droit à la caricature qui est bizarrement mieux, enfin je sais pas, hein, légalement, quand t'amènes une info, si t'as pas vraiment des preuves noir sur blanc machin, eh ben tu peux pas la balancer ou tu risques d'avoir des procès, etc. Alors que bon, encore essayer de subodorer ce qui va se passer dans la situation, dans l'actualité en tant qu'humoriste, et balancer des lièvres comme ça, mais sans en avoir forcément la preuve absolue, si c'est sur le ton de l'humour, on a encore le droit. Quoi. On n'a pas le droit à l'insulte, mais on a le droit, au moins, dans le cadre d'une émission d'humour, à en faire preuve. Quoi.
Parce qu'il y avait l'histoire du mouton aussi, où après les guignols avaient repris avec de greffe.
Non, tout. Mais ça c'était des conneries, parce que c'est eux qui avaient écrit un sketch sur un sketch de Groland, mais c'était pour expliquer qu'avec la nouvelle direction, de greffe avait du mal à défendre les humoristes, mais avec ça, on n'avait pas eu de procès. J'ai eu un problème avec le sac de Bernadette Chirac, quand même. Enfin, c'est toujours marrant.
C'est une histoire de design, ça.
Quand on se retrouve dans un tribunal avec...
Non, mais c'est le syndicat de la maroquinerie.
Qui a, voilà, c'est ça, c'est une histoire de design.
Il y avait trop de pièces jaunes dedans. Ouais. Et David Douillet, non, il n'y avait pas eu de problème.
Non,
ça va. Lui, on l'avait carrément traité de gros con. Ouais, ouais.
Ouais. C'est un gros con.
Ah, il est là, David, bonjour.
Mais bon, je pense qu'ils ont dû se dire que c'était courageux de notre part, parce que ouais, quand même champion du monde de...
Oui, mais très lâche, très veule.
Et un peu de lâcher en voiture, donc c'est difficile à conduire, il sait jamais. Donc vous
êtes jeune, ça rapporte quand même. Ouais. Et votre prochain film, alors, il sort quand? Rappelez avec qui c'est et
oui, parce que quelle thématique? C'est le troisième.
Un film avec François Ruffin.
Pardon.
Il devait y avoir François Ruffin, malheureusement, la scène a sauté au tournage.
Ah, dommage.
Ouais, c'est dommage.
Ouais, mais tu sais, en fait, c'était dans sa scène, il y avait un truc sur les patrons, mais on avait l'impression qu'on l'avait déjà fait avec Louise Michel, donc c'était un peu une redite moins
c'était
bien.
C'était même dommage parce qu'on l'avait un peu... Enfin, on avait été un peu en avance avec Louise Michel et là on faisait un truc après coup. Quoi. Ça faisait un peu...
Donc c'est ça qui a fait qu'on a dit à François de ne pas venir nous rejoindre, mais bon, c'est un.
Ça arrive. Et on voulait lui faire jouer un fils de patron. Hein, donc ça se fait pas.
Un bulletin d'abonnement réglera tout ça.
Voilà. Très bien. Donc c'est bien un fils de patron. Bien,
hein. Je suis le patron.
C'est lui le patron.
Mais non, à part ça, le film, on l'a tourné cet été avec Depardieu en pleine forme, donc il avait arrêté de boire, donc ça c'était une bonne nouvelle pour nous, et il a été vraiment génial, super concerné par le film, on a passé 5 semaines de vrai bonheur, on croyait rêver, je vous jure, c'est sans alcool, sans rien.
Ouais, dans tous les tournages, on a l'impression que les gens disent ça, mais nous, c'est vrai. Quoi, c'est...
nous, c'est vrai. L'impression. Ah non, mais à chaque fois, on dit, les gens, ils disent...
Même pas sans vin, même pas sans vin, il n'y a pas essayé de vous faire boire sans vin.
Non. Par contre, on a...
Si, on a ramené un peu du vin de soif, quoi. Enfin,
du vin de travail, il appelle ça du vin de travail. Mais il a été vraiment génial. Écoute, tout s'est bien passé. C'est un film sur la retraite, parce qu'on se dit qu'au cinéma, il n'y a plus que les vieux qui ont le temps d'aller au cinéma et qui ont de l'argent. Donc, on a ciblé cette clientèle très vaste
pour un film sur la retraite. C'est faux, parce que si on avait été vraiment intéressé en termes de marketing, on aurait fait un prof à la retraite. Ouais, ah, on n'a pas fait un prof à la retraite.
Putain, on est trop con.
On est trop con.
Voilà, c'est un film Télérama, c'est notre premier film Télérama.
Télérama, ah,
d'accord.
C'est un gars qui bosse dans un abattoir quand même. Voilà. Il croit qu'il a droit à la retraite, finalement non, parce qu'il n'a pas été déclaré par certains employeurs quand il était jeune. Donc il prend sa vieille moto, il va essayer d'obtenir des justificatifs. Mais ça va, il va se rendre compte qu'on l'a pris pour un con toute sa vie et ça le mine un peu. Quoi.
Voilà. Bref, il y a un fond.
Mais il n'y a pas que Depardieu.
Il y a un fond quand même qui est assez proche de celui de Louise Michel.
Ouais, mais ça se termine vraiment différemment.
Ça se termine différemment.
Il tue personne, mais c'est au moins aussi barré, mais tu sens qu'il est mort d'homme, quoi.
Et je pense que dans Télérama, il y aura le petit bonhomme qui se branle cette fois-ci.
D'accord.
Ça clignote. Nouvelle information.
Et il y a qui d'autre dans la distribution ?
Écoute, Popek. Pas Popek.
Sim. Sim.
Ah, Sim, son dernier Sim. Rôle.
Son dernier rôle de Sim, ouais.
Nous, on prend tous les vieux pour leur dernier rôle, en fait. Ouais. Et on attend de sortir le film quand ils sont morts. Donc. Non, il y a Isabella Gianni qui est venue, c'était génial. Et il y a Yolande Moreau, il y a Ciné, il y a Jackie Berroyer, il y a Giro.
Il n'y a pas Berroyer, il est.
Une pléiade de vedettes.
Et à Gianni, Isabelle, non ?
Oui, Isabella
Gianni. Elle était là.
La vraie.
Bah
écoute. Nous, en tout cas, avec nous, elle était carrément hallucinante, quoi. Enfin, tout le monde disait qu'elle était carrément inaccessible.
Mais elle a changé,
dingue, qu'elle avait quatre maquilleurs, que ceci, que cela. Pas du tout. Elle s'est retrouvée allongée dans un abribus à la campagne, comme tout le monde,
sans maquillage.
Non, mais c'était absolument... Elle a été vraiment incroyable, quoi.
Il y a Yolande Moreau, toujours. Il y a Ciné, il y a Dick Engarn, il y a... Bouli Lanners, Benoît Poulvord,
Blutch. Belle distribution, Blutch. Ah ouais, d'accord. Ouais. Ouais. En fait, vous cherchez les acteurs ici au festival, quoi. Bah, chaque année.
C'est dans des petits films comme ça qu'on rencontre des gens extraordinaires. Il y a Miss Ming, surtout, qui joue un des premiers rôles et qu'on a rencontré ici. Hein, donc, ouais. Qui jouait déjà dans Louise Michel, quoi.
Ok, là, vous faites votre marché aussi, ou alors film l'année prochaine.
Tu sais, les gens font leur marché chez les agents d'acteurs. Bah, nous, on fait nos marchés dans la réalité, ouais. Donc c'est quand même plus simple.
Ouais, mais Jean-Pierre Mocky aussi nous l'a
dit. Des produits plus naturels.
Oui, c'est vrai.
C'est bio.
100% bio. Roland,
c'est
bio.
Des bio. Des bio.
On a des acteurs bio, nous.
Ouais, dans le Nord, on dit des bio. Ouais. Des bio comme chez nous.
Des bio comme chez nous. Ouais.
Je crois qu'on va vous libérer.
Non, on a des trucs à dire encore.
Achetez Fakir.
Parce que Jackie va.
Il sort quand votre film alors ? Il va sortir quand ?
Je ne
sais pas. Vers mars 2010, enfin en 2010, courant 2010.
Vous allez à des sorties.
Et Francis Kafka à Kuntz, il fait.
Il est en train d'en tourner un.
Il est en tourner un, c'est pour ça qu'il n'est pas là.
Ouais, il est à Nancy en train de tourner son premier film, vraiment aussi avec des potes et tout. C'est...
Il fait partie de votre boîte de prod ou c'est indépendant ?
Non, on n'arrive pas à se produire vraiment tout seul. Quoi. Parce que
c'est trop compliqué, trop de paperasse.
Et... Alors à chaque fois, on fait la gueule parce qu'on se fait baiser, mais. En même temps, on n'a pas de. En même temps, on n'a aucune excuse. Parce qu'on pourrait le faire nous-mêmes, donc on n'en tient pas du tout pas la route à ce niveau-là. Quoi. Ah, à chaque fois, on dit merde, ils nous ont baisés, les enculés, on n'a pas de sous. Mais bah, vous aviez qu'à le faire vous-même. Ah oui, merde.
On peut pas non plus.
Bon, on va trouver un autre qui va mieux nous baiser. Alors.
Voilà. Okay. Jackie, ça va ?
Bonjour Jackie.
Jackie. Là, il est de mauvais poil.
Je parle là-dedans.
Bonjour Jackie Berroyer.
Écoutez, je suis très content que vous soyez tous venus me voir. Non, écoutez, bonjour.
Il a fait un jogging, là, j'ai l'impression.
Des questions ?
Oui, comment tu vas ? Tu viens de dédicacer ton livre ?
Et moi, je suis en bonne santé. J'ai fait des tests ce matin.
Test d'effort.
C'est bien parce qu'avec on a l'impression de connaître sa vie aujourd'hui.
Oui, c'est ça. Exact. Ça va, tes problèmes
j'ai
de.
J'ai un bon transit intestinal.
Tes problèmes de voisinage dans ton immeuble
J'ai un problème d'antenne. Tout le monde veut des portables, personne ne veut les antennes. Et alors, la propriétaire de là où j'habite a prévu, un jour je sors sur le palier, ils étaient 12, et c'était tous les gens des corps de métier pour la pose d'une antenne. Alors, je sais pas, je commence à être en cheville avec des Robins des Toits, des gens comme ça. Et qu'est-ce qu'on va faire ? Un attentat ? Je sais pas.
Comme dans la grande lessive de Mocky, qui est projetée ici. Hein.
Comment ça se termine, la grande lessive ?
Tu sais, ils vont sur les toits pour foutre en l'air
D'après ce que j'ai compris dans ces choses-là, c'est que en fait il y a des pays qui sont plus avancés là-dedans. Si on met des petites antennes un peu partout, ça va.